France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec l'historien Jean-François Cirinelli qui publie chez Talendier « Ce monde que nous avons perdu » avec ce sous-titre « Une histoire du vivre ensemble ». Comme si tout cela s'était envolé, c'est en tout cas ce que l'on semble percevoir à la lecture de cet ouvrage. On y reviendra évidemment longuement tout au long de cette émission, car le vivre ensemble concerne bien des sujets que nous allons aborder ce soir. Il faut dire que l'actualité de la semaine nous y invite, à commencer bien sûr par la politique. Et ça tombe bien, car Jean-François Cirinelli est un spécialiste de l'histoire politique et culturelle de la France, à laquelle il a consacré de nombreux livres. Il aura donc l'occasion de nous dire ce qui, selon lui, serait susceptible de recréer du lien dans une société fracturée, peut-être aussi tout simplement fatiguée. Parmi les pistes envisagées par ceux qui nous dirigent, il y a le service national universel, promesse de campagne du président Macron, qui peine à se mettre en place, mais qui a ses adeptes.
Ça a été vraiment une des plus belles expériences de ma vie. J'ai rencontré plein de personnes. Moi, j'estime que le rendre obligatoire, c'est bien.
À 19h, le journal de Frédéric Barrère. À 19h20, le téléphone sonne. À la veille de la marche des fiertés, comment lutter contre les LGBT-phobies? L'actualité des derniers jours nous a montré que la question restait entière, tout particulièrement en Europe de l'Est. Qu'en est-il en France? 01 45 24 7000. D'avance, merci pour vos appels. Merci aussi à toute l'équipe d'Une semaine en France. Mathieu Bellini à la préparation, Stéphane Combe à la réalisation, Adèle Domas à la page web. Merci aussi à nos standardistes, ainsi qu'à Michel Bézikian, Clément Berman et Tristan Gratalon qui sont en régie.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Jean-François Cirinelli.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter. Vous êtes historien, professeur émérite d'histoire contemporaine à Sciences Po Paris, auteur de très nombreux ouvrages sur les intellectuels, la droite, les années Giscard, les révolutions, l'humanité, les baby-boomers et j'en passe. Vous voilà donc de retour avec « Ce monde que nous avons perdu » chez Talendier. On va évidemment en parler. Mais si vous le voulez bien, peut-être pour commencer l'actualité de la semaine, qui n'est pas si éloignée que ça, hein, de tout ce que vous pointez dans ce livre, puisque votre analyse repose en grande partie sur ce que vous appelez la matrice républicaine de notre société. Dites-nous pour commencer, quel est pour vous l'élément marquant du scrutin de dimanche dernier? Et j'imagine que vous allez me dire c'est l'abstention.
Oui, je suis désolé de ne pas faire une réponse originale, mais cette réponse, elle est ferme au sens où, pour un historien, cette abstention est marquée par trois adjectifs. Vous le disiez à l'instant, d'abord, elle est considérable, mais surtout, elle est inédite sous la Ve République. Deux Françaises et Français sur trois ne se sont pas rendus sur l'Agora. Et en même temps, elle est inquiétante, car on le dira tout à l'heure, vous le disiez, le vivre ensemble, c'est notre capacité à régler nos différences et nos différends par la politique. Or là, visiblement, il y a pour le moins court-circuit. Et donc, il y a une interrogation qui dépasse naturellement ce chiffre, mais qui engage en quelque sorte l'avenir.
Parce que voter, c'est quoi? C'est participer avant toute chose.
Absolument.
C'est faire partie de la collectivité.
Le vivre ensemble, c'est être ensemble sur l'agora. Ne serait-ce que pour ensuite gérer, je le disais, nos différences. Dans le fond, le vivre ensemble, c'est savoir être désunis. Et ce qui permet d'être désunis de cette façon, de façon raisonnable et raisonnée, c'est le lien politique, c'est le vote. Et donc, quand deux Françaises et Français sur trois ne viennent pas voter, il ne s'agit pas du tout de leur faire la morale, mais de constater, je le répète, un court-circuit dans le fonctionnement, non seulement de nos institutions, mais tout simplement de ce lien politique.
Capable d'être désunis, vous citez Alfred Sauvy, la démocratie consiste moins à s'unir qu'à savoir se diviser.
Absolument, je souscris, sa formule est frappante, elle a souvent été reprise. Elle dit bien ce qu'était, vous parliez tout à l'heure, de matrice républicaine. Depuis un siècle et demi, nous avons été capables de gérer, et Dieu sait si elles étaient importantes, nos différences, et Dieu sait s'ils étaient importants, nos différends. Et donc la question, au moment où la société semble, sinon en voie de fragmentation, en tout cas en danger de fragmentation, c'est de savoir si ce lien politique est déficient au moment où nous en avons particulièrement besoin.
Alors, cette abstention, Jean-François Cirinelli, vous le dites, elle est inédite sous la Ve République. Cela dit, il y a eu des épisodes avant la Ve République. Et si j'en parle, c'est parce que vous citez De Gaulle en 1946, au moment de l'adoption de la Constitution, accepté par 9 millions d'électeurs, refusé par 8, ignoré par 8. il y avait déjà une très forte abstention, ce que vous appelez la fatalité des trois tiers.
Oui, c'est ça, la fatalité des trois tiers, le syndrome des trois tiers, c'est-à-dire qu'au moment où les Français adoptent la constitution de la 4e République, 53%, une petite moitié l'accepte, une petite moitié la refuse, mais il y a un tiers d'abstention, d'où la formule du général de Gaulle, un tiers l'ont accepté, un tiers l'ont refusé, un tiers l'ont ignoré, le syndrome des deux tiers, comme par hasard, nous retrouvons les 66%. Or, la 4e République, vous le savez, a duré 12 ans. Alors, je ne veux pas, naturellement, jouer les,
nous dire que
les prophètes,
c'est la fin.
Mais bien évidemment, ce syndrome des deux tiers, il est toujours, pour un régime, quelle qu'en soit la nature, un signal d'alarme, en quelque sorte.
Et alors, on va remonter encore plus loin dans l'histoire, parce que vous le faites aussi dans votre livre, vous citez Tite-Live et les sécessions de la plèbe. Donc là, ça remonte à il y a encore beaucoup plus longtemps, c'est pas nouveau, encore une fois.
Tout à fait. Alors, effectivement, là, nous remontons, vous le disiez à l'instant, sous la République romaine, à un moment donné, dans ses luttes avec le patriciat, la plèbe considère qu'elle est maltraitée, qu'elle n'est pas représentée ou qu'elle est sous-représentée, et donc elle fait sa sécession. Elle va sur l'Aventin. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elle obtient les tribuns de la plèbe. Et donc, vous voyez que dans une République, une forme d'Aventin est toujours dangereuse. Or là, on y reviendra peut-être. On a plusieurs Aventins. On a cette sorte de fracture sociologique à travers, on l'a vu, les gilets jaunes ou l'abstention, on le disait à l'instant. Il y a probablement aussi une autre forme d'Aventin qui est celui, entre guillemets, des élites. Et donc, un Aventin pour la République romaine, ça va. Si vous me permettez cette expression triviale, deux Aventins, bonjour les dégâts.
Alors, effectivement, on va y revenir parce qu'on ne va pas rester chez les Romains. On va revenir maintenant en 2021. On va s'arrêter sur cette abstention record, deux tiers des Français qui ne sont pas allés voter. C'est encore plus chez les plus jeunes, 87% d'abstention chez les 18-24 ans. C'est un reportage de Delphine Evenoux qui a été tourné lundi à Paris.
Devant la faculté de Jussieu, sur les panneaux électoraux, les candidats sourient en vain en direction des jeunes électeurs.
Je me suis renseignée un petit peu comme tout le monde, mais je suis pas allée dans le détail et puis ça me disait pas grand-chose.
Pas le temps, des partiels, procuration trop tard.
On se trouve des excuses, je pense, mais c'est un truc plus pour les adultes qui savent pour qui ils vont devoir voter parce qu'ils se sont quand même bien renseignés, alors que je sais pas, quand on a 18 ans, on a peut-être d'autres préoccupations.
Confirmé par Nelson, 21 ans, vendeur.
Les jeunes se désintéressent de la politique de plus en plus, parce qu'ils pensent plus à eux qu'autre chose, comme moi j'ai fait, hein, c'est un avis égoïste, je l'assume.
Donc c'est pas la faute des politiques ?
Non. Après, je dis ça, mais moi je vais vous dire la vérité, il n'y a pas beaucoup de politiciens qui m'intéressent beaucoup, soit leur parcours ou leur histoire ou je sais pas quoi, c'est vraiment pas mon délire.
Cassandra, 19 ans, fiche de révision en main, n'a même pas pensé à aller voter.
Dans ce qu'on a vu jusqu'à présent, il y a souvent des trucs qui à la fin ne sont pas faits, et donc au bout d'un moment on se dit qu'on a d'autres préoccupations et que c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. Si au final c'est pour servir à rien, c'est un peu la crainte qu'on a.
Une lassitude qui a fait louper l'inscription sur les listes électorales à Baptiste en service civique.
Moi, le paysage politique en ce moment me fait pas vraiment envie du tout. Il y a très peu d'alternatives et même quand ces alternatives existent, tout le monde dit oui, non mais il faut voter utile, il faut voter ceci, c'est un peu n'importe quoi.
Et pourtant, comme beaucoup d'autres, pour le scrutin présidentiel, il assure qu'il se déplacera dans l'isoloir.
Jean-François Cirinelli, ces jeunes qui ne sont pas allés voter, pour certains, pour marchent pour le climat par exemple, et vous le disiez il y a un instant, il y a d'autres formes de participation.
Oui, mais permettez-moi d'introduire une petite note personnelle. Je ne devrais pas, en tant qu'historien tenu au devoir de réserve, mais
tout vous est permis ce
le
soir.
Baby-boomer que je suis se rappelle qu'à 18 ans, à 19 ans, à 20 ans, ils ne votaient pas. Que, par exemple, en 1969, j'avais 20 ans, ne pouvais pas
voter. Parce qu'il n'y avait pas le droit de vote à ce âge-là.
Il a fallu attendre 1974. Donc, c'est pour ça que je parlais de tristesse. C'est toujours un peu navrant de voir ce qu'a été une conquête, hein, de même qu'il y a eu de grandes conquêtes féminines à la même époque. Vous connaître quelquefois, par la force des choses, par une pente compliquée, connaître une sorte de recul. Alors, cela étant, maintenant j'en viens à votre question, c'est navrant également parce que ces jeunes, c'est l'avenir. C'est pas les baby-boomers, l'avenir, c'est même pas les adultes de 50 ans, c'est l'avenir. Et donc, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi, non pas ils n'ont pas été votés dimanche dernier, au bout du compte, c'est leur droit, mais quelle est la nature du malaise, voire du malentendu, avec eux? Ce que considèrent-ils, eux, comme malentendus? Et sommes-nous, nous, des malentendants par rapport à eux? Il y a une réelle question là, puisque les chiffres parlent d'eux-mêmes, 87%, 9 jeunes sur 10 en tout cas, de moins de 24 ans.
vous pointez des responsabilités en matière d'abstention. Même si vous n'aviez pas les chiffres de dimanche dernier, vous dites que les partis politiques ne jouent plus leur rôle. Ça en fait partie du problème.
Oui, est-ce une responsabilité ou est-ce simplement un mécanisme ? Effectivement, les partis sont au cœur, si vous voulez, de ce phénomène de décrue. Pour autant, eux-mêmes, si vous voulez, sont emportés par l'avalanche. Donc c'est un phénomène plus large. Alors maintenant, introduisant quand même une note d'optimisme, aux dernières élections présidentielles, en tout cas au premier tour, nous avions quasiment atteint 80%, c'est-à-dire qu'on avait renoué avec des taux du début de la Ve République. Donc, moi je suis par exemple je ne suis pas d'accord avec les titres de la presse écrite au début de la semaine quand ils parlaient de la France de l'indifférence. Non, ce vote, c'est pas un vote de l'indifférence. On commettrait une erreur en pensant qu'il n'y a là que de l'indifférence, il y a là probablement un malaise, au demeurant multiforme, aux causes plurielles, mais dont il faut essayer de sonder et de d'énumérer les raisons.
D'ailleurs, on entendait un des jeunes qui parlait dans ce reportage, qui disait pour la présidentielle, ce ne sera pas pareil. Je voudrais qu'on s'arrête sur la dernière présidentielle, parce que vous en parlez là aussi. Vous dites qu'il y a eu une forme de dégagisme, et vous dites même une sorte de Saint-Barthélemy rampante des cultures politique, ça va très loin. C'est vrai qu'Emmanuel Macron a renversé la table. Je voudrais vous faire écouter ce que dit à ce sujet Jean-Pierre Raffarin. Il parle de la situation actuelle, de ce qui pourrait se passer. C'était cette semaine sur l'antenne de nos confrères de France Info.
Le problème du président, c'est son parti. Ce qui est amusant, c'est que les Républicains, leur problème, c'est leur leader. Donc les problèmes sont complètement inversés là aujourd'hui. Les Républicains ont une implantation territoriale, mais un leadership difficile à établir. Et le président de la République, il a un vrai leadership, mais il n'a pas de parti. Giscard, comme Macron, ont montré qu'on pouvait gagner sans parti. Mais je crois qu'on ne peut pas gouverner et on ne peut pas être réélu sans parti. Je pense aujourd'hui, s'il y avait des élections demain, la probabilité selon laquelle M. Macron serait réélu, de mon point de vue, est très forte. Mais je ne le vois pas gagner des législatives. Souvenez-vous qu'au deuxième mandat pour M. Mitterrand, même pour le général de Gaulle, ils ont eu une voix de majorité. Cet effet vague derrière l'élection présidentielle pour les députés, ça marche la première fois, ça marche pas la deuxième fois.
Vous êtes d'accord, Jean-François Sirinelli, avec ce que Jean-Pierre Raffarin?
Oui, je suis d'accord. Ce qui me frappe dans le cas du parti présidentiel, c'est son absence d'enracinement. Et c'est pire qu'une absence d'enracinement. C'est une structure presque hors sol. Je le dis vraiment.
Mais vous n'êtes pas le seul à le dire. Je crois que même eux le reconnaissent.
Comme observateur, si vous voulez, moi, comme historien, quand j'ai à rendre compte de ce qui se passe dans la tête d'un député La République En Marche, j'ai scrupule à répondre parce que je ne sais pas. Quand je dis je ne sais pas, je ne veux pas dire qu'il n'y a rien dans cette tête. Au contraire, je parle d'eux avec le plus grand respect. Mais là aussi, c'est multiforme. Or, un parti politique, ça n'est pas des mouvements browniens. Ça n'est pas un ensemble multiforme. Un parti politique, c'est quelque chose qui dessine la route, qui incarne des choix. Car, dans le fond, la politique, c'est le choc des choix. C'est le choc des possibles. Et donc, un parti politique doit incarner l'un de ses possibles. Actuellement, ça n'est pas le cas et donc il y a en quelque sorte danger dans la demeure et il y a la nécessité pour le parti présidentiel de se reprendre en main.
La Fondation Jean Jaurès a fait une suggestion aujourd'hui dans la perspective des prochaines élections pour essayer de remettre les choses en place. Elle suggère qu'on organise la présidentielle et les législatives le même jour, en même temps. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, pour ma part, je ne suis pas un spécialiste en quelque sorte des élections stricto sensu, mais je pense que ce serait une erreur. Chaque temps, la politique a sa respiration. C'est vrai que depuis les débuts de la Ve République, le rendez-vous présidentiel est un rendez-vous essentiel parce qu'il est structurant. Et donc faire le même jour, on voit bien l'avantage, c'est que dans le fond, il y aurait une cohérence, il n'y aurait pas ces effets d'entraînement qu'on a observés encore en 2017. Et qui a permis plus de 310 députés de La République En Marche. Mais en même temps, je crois qu'il y a un temps pour tout. Il faut laisser la politique respirer. Sinon, on constatait tout à l'heure qu'elle s'étouffait. Je crois que ça l'étoufferait encore davantage.
Vous avez publié « Vie et survie de la Ve République », Jean-François Sirinelli. Ce qui s'est passé nous dit quoi de cette République ? Elle est toujours d'actualité ou elle est un peu obsolète ?
On peut faire une réponse en fonction de ses inclinations politiques. Je ne le ferai pas, puisque ce n'est pas ce que vous attendez de moi.
Non,
moi,
je parle de la situation.
Je constate, si vous voulez, que cette Ve République, elle est quand même, pour le moment, ses institutions, je veux dire, sont la carapace que ce qui se porte mal, c'est l'intérieur, mais que justement, pour le moment, l'épine dorsale, la colonne vertébrale, reste, qu'on soit pour ou contre les institutions elles-mêmes, reste cette République qu'ils, somme toute, on en parlera peut-être aussi à propos du Covid, a tenu dans l'épreuve, a plié, a ployé sans rompre.
Lors des tests d'effort, comme vous dites, à propos de ces épreuves auxquelles est soumise la société. On va évidemment en parler, mais on va passer à l'actualité de la semaine, si on peut dire, grâce à ce mix mis en onde par François Audouin. À la une cette semaine, eh bien, on y revient, l'abstention.
Vous saviez qu'il y avait des élections ?
Non, j'étais pas au courant.
Et d'habitude, vous votez ou pas ?
Oui.
66% d'abstention au premier tour des régionales et des départementales dimanche, du jamais vu pour un tel scrutin.
Une démocratie sans électeurs, ce n'est plus vraiment une démocratie.
Et si Jean-Luc Mélenchon a le blues, Marine Le Pen, elle, ne peut cacher sa colère.
Nos électeurs ne se sont pas déplacés. C'est pourquoi je les appelle au sursaut.
Pour le second tour dimanche.
Si vous voulez que les choses changent, vous devez voter.
C'est compris ? Dans les Hauts-de-France, où le RN a reculé de 15 points, Xavier Bertrand n'est pas peu fier.
Ici, nous avons desserré pour les briser, les mâchoires du Front National.
Quant au parti présidentiel, on peut dire que là comme ailleurs, il a mordu la poussière. Christophe Castaner.
Les résultats sont mauvais pour La République En Marche. Nous avons encore cette fragilité, mais nous le savons.
Des fragilités que Rachida Dati qualifie de la façon suivante.
En Marche, c'est quoi ? C'est des traites de gauche, des traites de droite. C'est ça, ce parti.
Gérald Darmanin lui vient de la droite et ses idées sont intactes.
Je pense qu'être élu local, c'est très important. Voilà, je pense qu'un homme politique ou une femme politique doit être élu. Et il a quelque chose qui lui manque, de légitimité, lorsqu'il n'est pas élu.
Et vlan pour ses collègues ministres battus aux élections d'ailleurs, le président du groupe LR à l'Assemblée, Damien Abad, ne dit pas autre chose.
Quelle légitimité démocratique a votre gouvernement aujourd'hui quand vous envoyez 5 de vos ministres en campagne dans les Hauts-de-France et que les 5 sont balayés dès le premier tour ?
Dire c'est la faute du gouvernement, c'est beaucoup trop facile.
C'est peu dire que Jean Castex a passé une mauvaise semaine. Entre les élections, le variant Delta qui menace d'une reprise de la pandémie et le Conseil d'État qui suspend la réforme de l'assurance chômage.
C'est une bonne nouvelle pour 1 150 000 personnes, c'est un camouflet pour le gouvernement, on ne peut pas dire ça autrement.
Un simple contretemps, dit le gouvernement.
Je suis toute seule avec ma fille. À Saint-Claude, il n'y a plus de boulot, il n'y a déjà plus d'hôpital.
300 chômeurs de plus dans le Jura avec la liquidation de la fonderie automobile MBS.
On s'est battu, ça fait plus de deux mois et demi qu'on se bat. C'est fini.
Pourquoi vous cassez ? Vous pouvez le prendre, non ? Vous n'êtes pas obligé de casser !
Colère des rêveurs délogés par les gendarmes le week-end dernier à Redon, en Bretagne. Il y a plusieurs blessés, un jeune homme a eu la main arrachée. Quant au matériel, le préfet confirme qu'il a été détruit.
L'opération a duré 45 minutes. Elle a permis la neutralisation de l'ensemble des dispositifs de diffusion du son présents sur le site.
On fait ça juste deux soirs ou un seul soir, après on s'en va, on ramasse. C'est une culture à part entière qu'on essaie de défendre et qu'on est encore aujourd'hui géré par le ministère de l'Intérieur et pas par le ministère de la Culture.
Il y a eu des affrontements qui auraient pu être évités.
Commentaire de l'éternel ministre de la Culture, Jack Lang, d'autant que tout cela s'est produit à la veille de la fête de la musique.
Bonjour, bienvenue à l'Élysée. Amusez-vous, faites la fête, aimez la musique.
Avec l'ouverture pour Karim Benzema, elle est magnifique, Benzema. Et deuxième but pour l'équipe de France. Je vous avais dit qu'il n'y avait pas hors-jeu.
Karim Benzema.
Et oui, Karim Benzema a marqué. Il a même marqué deux fois contre le Portugal.
Ça fait plaisir que c'est Karim qui marque.
On y croit pour la suite et on va ramener la coupe à la maison. La France sera en finale et on va gagner. Allez les Bleus.
Ramener la coupe à la maison.
Et encore merci à François Audouin. Une semaine en France en compagnie de l'historien Jean-François Sirinelli, spécialiste d'histoire politique et culturelle, qui publie « Ce monde que nous avons perdu ». On va parler du Covid, Jean-François Sirinelli. Je ne sais pas si vous souhaitiez réagir à un autre sujet qu'on a pu entendre.
Non, tout ça tourne effectivement autour de la politique. À juste titre, nous sommes dans ce qu'on appelle un entre-deux-tours. Et donc, non, nous en avons parlé précédemment.
Le Covid fait partie de ce que vous appelez les tests d'effort. C'est une expression qui vous est chère. Elle revient à propos de plusieurs sujets. Vous pensez que les Français ont vécu ça de quelle façon ? Ils ont fait preuve d'unité, non ?
Alors, test d'effort, naturellement, vous le disiez, c'est une métaphore médicale. On voit comment un organisme arrive à supporter une épreuve, effectivement. Je crois l'un dans l'autre, sans être médecin et sans être véritablement politologue, puisque je suis historien, mais ça me permet de mettre ça en perspective, que ce vivre ensemble a tenu dans l'épreuve, c'est même resserré dans l'épreuve. Pour autant, on ne sort pas d'une épreuve uniquement par des applaudissements. Je parle des applaudissements légitimes l'an dernier envers les soignants. Il y a une question de fond et d'abord, il y a le bilan. Moi, je suis toujours étonné de voir qu'on constate un bilan de 110 000 personnes, non pas sans broncher, on sait bien que c'est autant de destins familiaux broyés, mais rappelez-vous par exemple qu'en 1940, ce qu'on a appelé la campagne de France, quand l'armée française est battue, c'est 92 000 morts. C'est-à-dire que ce Covid, en un an, a fait autant de morts que la campagne de France qui a entraîné la défaite militaire française.
Et donc peut-être qu'Emmanuel Macron avait raison de parler de guerre, souvenez-vous, c'était le 16 mars 2020. La veille, on avait voté premier tour des municipales, sans masque, avec la peur au ventre.
Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir.
C'est vrai qu'il y a eu, donc, vous le rappeliez, 110 000 morts. Certains ont même évoqué l'idée d'un hommage collectif aux victimes, Jean-François Sirinelli. Ça aurait du sens ou pas ?
Probablement, c'est vrai que nous sortons, à supposer que nous en sortions, pour l'instant je veux dire, nous sortions d'une épreuve, et d'une épreuve collective. Donc il y aura un moment où, collectivement, nous devons rendre hommage aux disparus, prendre conscience de ce qu'a été cette épreuve, sauf que prendre conscience d'une épreuve, c'est la nommer, c'est la caractériser, c'est la définir. Et là, les mots manquent, et même moi-même j'utilisais le mot « guerre », non pas pour une comparaison, mais simplement pour un bilan. Sinon, l'utilisation 6 fois dans un discours du mot « guerre » était un aveu, non pas de faiblesse, bien évidemment, du président, mais l'aveu de la difficulté à nommer quoi ? À nommer, il utilise le terme « l'ennemi ». Donc vous voyez que cette crise, elle est profonde, car souvent la République a connu devant elle des obstacles, a connu toute une série d'ennemis. Là, nous ne savons pas exactement nommer ce que nous avons affronté. On sait bien que c'est un virus, mais quel est l'ensemble, cette sorte de crise en quelque sorte que nous avons rencontrée ? Il faudra un jour la nommer. Une société ne se tire de l'épreuve que quand elle est capable de la caractériser.
Autre épreuve majeure pour notre démocratie, les attentats, avec là aussi l'utilisation du mot guerre. Vous rappelez cette déclaration de François Hollande en novembre 2015.
La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre. Ils ont fait au moins 129 morts et de nombreux blessés. Ils constituent une agression contre notre pays, contre ses valeurs, contre sa jeunesse, contre son mode de vie.
Les attentats, Jean-François Sirinelli, ont été une épreuve majeure pour la France ces dernières années, avec des répliques de plus en plus visibles.
Essentiel. Dans les années 60, la France a connu une sorte de parenthèse, qu'on peut qualifier maintenant de parenthèse enchantée, qui était placée sous le signe de 4 P majuscules. La prospérité, le plein emploi, le progrès, c'est-à-dire demain était mieux qu'aujourd'hui, pas simplement dans les proclamations, mais dans la réalité sociologique, et j'en viens à votre question, la paix. Les 3 premiers P, la prospérité, le plein emploi, le progrès, petit à petit se sont érodés. Il nous restait la paix. Et c'est vrai que ce milieu des années 2010 du 21e siècle ont introduit un élément nouveau, c'est-à-dire que la France a des adversaires qui proclament leur haine de la France. Avec d'ailleurs un caractère inédit, c'est que cette haine, quelquefois, est intérieure à la France. Si on réfléchit froidement, la France, au fil de son histoire, a connu des chocs en son sein. Mais chacun se battait au nom d'une France. Là, quelquefois, nous avons des adversaires qui dénoncent la France et qui proclament qu'ils sont en guerre avec la France. Il est évident que c'est une situation historique inédite sur laquelle nous avons à réfléchir et à méditer.
Parce qu'elle peut provoquer des fractures
absolument
essentielles.
Parce qu'elle vient d'abord sur une société fracturée et qu'elle peut introduire une faille, si vous voulez. Nous ne sommes pas encore dans une configuration de champ de faille, mais rien n'est plus terrible, vous le voyez, qu'une sorte de faille centrale. Et c'est là-dessus qu'il faut, il faut tous réfléchir, quelles que soient nos générations, quelles que soient nos inclinations politiques ou idéologiques, quelles que soient nos visions de la vie, quels que soient nos penchants spirituels. Il y a là l'enjeu majeur, avec un autre enjeu dont on parlera peut-être, qui n'a pas de rapport en apparence, mais qui est au cœur aussi, qui est l'école. Il faut sanctuariser l'école, qui est la transmission de notre culture et de notre langue.
Pour en revenir à votre livre, Jean-François Sirinelli, vous évoquez le début de la Troisième République. Pourquoi dites-vous que la France reste la fille des années 1870 ? Et alors, puis vous, expliquez-nous la Marianne et la semeuse.
Merci, vous me faites revenir en arrière. Je dis merci puisque l'historien retrouve sa casquette d'historien. Effectivement, il y a deux déesses tutélaires qui se sont penchées d'une certaine façon sur ce système républicain. Il y a Marianne, tout simplement la représentation de la République. Mais en 1870, Marianne est cette fois-ci victorieuse, alors que jusque-là, elle n'était qu'une ligne d'horizon présente dans le regard, mais qui se dérobait. Donc désormais, nous vivons, et pour un siècle et demi, en République. Et il y a la semeuse. La semeuse, c'est le symbole de la rousse, mais c'est aussi la République qui sème, et pas simplement parce que c'est à l'époque une grande puissance agricole. Elle sème la culture et elle sème la langue. Et donc ce système, cet écosystème, c'est un équilibre entre un régime politique et des valeurs qui sont inséminées, qui sont transmises par l'école. C'est pour ça que tout à l'heure, de façon un peu martiale, j'en conviens, je parlais de sanctuariser l'école, car au cœur de cette république triomphante à l'époque, il y a l'école, il y a les lois qu'on appelle les lois Ferry, il y a l'école laïque, obligatoire et gratuite.
À propos de l'héritage de cette époque, on va dire un petit mot de la commune, parce que vous en parlez, et puis c'est vrai que ça a été d'actualité récemment, à propos de la mémoire de Napoléon et de la commune. 6000 à 7000 communards tués, vous dites, depuis aucun affrontement entre Français n'a connu un tel degré de violence en si peu de temps.
Oui,
c'est un événement important.
Je précise dans une incise, sauf la période de la Seconde Guerre mondiale.
De l'occupation, évidemment.
Mais sinon, c'est un événement considérable qui a des traces dans ma famille. Mes grands-parents allaient se recueillir tous les 1er mai devant le mur des fédérés. C'est-à-dire que les sensibilités de gauche, à l'époque, nous parlons de l'entre-deux-guerres, allaient, je le répète, se recueillir. Donc cette commune a été un moment, en même temps, un moment douloureux. C'est pas un moment du vivre ensemble. C'est un moment, vous le voyez, au contraire, où la France s'est trouvée divisée. C'est mon devoir d'historien et celui de mes collègues que d'analyser ça avec nuance. Mais ça a été un moment considérable et d'ailleurs regardé par le monde entier. En même temps, ça a été un moment très court, moins de 3 mois, je le rappelle.
Voilà, donc les choses essentielles qui font nation, vous rappelez, j'utilisais peut-être pas ce terme-là, mais vous dites bien la langue française, l'école, vous insistez sur l'école, mais aussi d'autres héritages, la sociale, par exemple, essentielle quand même dans un pays comme la France, ces lois qui ont été adoptées.
Bien sûr. Alors, en même temps, c'est très compliqué parce qu'il faut juger un régime à ses réalisations et au rapport entre ses réalisations et ce programme. La sociale, les réalisations sociales, bon ben, tout le monde n'y adhérait pas. La droite française considérait qu'on allait trop vite ou pas dans la bonne direction. Mais c'est vrai que cette république, ce qui est passionnant, c'est qu'après avoir été une république qui gagne les esprits, elle a connu, vous le disiez à l'instant, une deuxième mouture après la Seconde Guerre mondiale. Et cette République sociale, c'est le fruit de l'État-providence. Mais cet État-providence lui-même, il a été porté par les Trente Glorieuses. Et donc, notre enjeu de nos jours, c'est est-ce que cet État-providence, dans un contexte socio-économique totalement différent, est-ce qu'il est encore d'actualité? Est-ce qu'il a encore sa force et sa raison d'être? Ou est-ce qu'il faut passer, si j'ose dire, à autre chose? On a vu petit à petit apparaître cette notion, par exemple, à travers le discours de François Fillon en 2017, sauf qu'ensuite, il a eu à se justifier sur des points totalement différents et ce débat est passé à la trappe.
En tout cas, ce débat va revenir, forcément, ne serait-ce que sur les retraites, et on sait très bien que ça fera partie des sujets de la prochaine présidentielle. Pour en revenir à ce vivre ensemble, à ce lien social, on se demande évidemment comment le recréer. Parmi les pistes retenues, il y a le service national universel. C'était une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Il devait être universel, obligatoire et même militaire au départ. Finalement, c'est un service plutôt civil, sur la base du volontariat pour l'instant, et qui concerne une poignée de jeunes. Certains ont commencé cette semaine. Explication Claire Chaudière.
Percuté de plein fouet par la crise, le SNU n'atteindra pas cette année la jauge de 30 000 jeunes initialement prévue pour l'année dernière, mais les fondamentaux restent les mêmes, martèle le gouvernement. Dépaysement, mixité sociale et une tenue commune pour tous les participants, pour ne pas dire un uniforme. Angélique a fait partie de la première promotion.
Ça a été vraiment une des plus belles expériences de ma vie. J'ai rencontré plein de personnes, des corps en uniforme, tout ça. Les activités qui m'ont le plus plu en quelque sorte, c'est les activités de battue où on cherchait des personnes disparues. La self-défense aussi, ça j'ai adoré.
Levée du drapeau chaque matin et marseillaise, rituel reconduit également. Au programme, plus de plein air qu'en 2019 où les modules théoriques avaient eu moins de succès.
C'est surtout que c'était long avec la chaleur. On n'est pas allé au SNU pour rester dans des salles de cours comme au lycée.
Quant à la généralisation du dispositif, elle n'interviendrait que d'ici 3 à 4 ans, avance très prudemment l'exécutif. Angélique sait que le sujet continue de diviser.
Moi, j'estime que le rendre obligatoire, c'est bien. Après, je sais qu'il y en a plein qui ne sont pas de mon avis. Il y a plein de gens qui sont réticents.
Parmi les critiques, encore vive la coloration jugée parfois un peu trop militaire du dispositif. Autre point sensible, le coût et les capacités d'hébergement à terme de ces centaines de milliers de jeunes.
Et si je cite le service national universel, Jean-François Sirinelli, c'est parce que vous évoquez la suppression du service militaire. Ça fait partie de ce qui a distendu ce lien ?
Oui, alors il ne faut pas avoir une vision trop masculine des choses, car de fait, cette Troisième République que j'évoque, je place au cœur le service militaire qui ne concerne que les hommes, de même que seuls les hommes votaient. Mais pour revenir à votre question, c'est vrai qu'à la fin du XXe siècle, au début du septennat de Jacques Chirac, il a supprimé le service militaire. Or, c'est vrai que sous la Troisième et encore sous la Quatrième, c'était dans le fond le seul moment de réelle rencontre sociologique, de réel brassage sociologique. Et donc, qu'on soit pour ou contre le service militaire, c'est vrai qu'il y a un manque et d'une certaine façon, c'est vrai que ce service que vous évoquez est intéressant. D'ailleurs, dans les attendus du gouvernement Édouard Philippe, on parlait d'unité nationale et de valeurs républicaines. Donc, dans le fond, tout ce qui conduit à l'unité ou qui conforte des valeurs est bon à prendre. Donc, on ne peut que se féliciter de cette initiative. Ce qui est intéressant, c'est de voir si les jeunes s'y retrouvent ou pas. Les témoignages qu'on a entendus donnaient une impression un peu mitigée.
Pour l'instant, c'est aussi, c'en est aussi au début. La crise du Covid a perturbé la mise en route de cette expérience. Jean-François Sirinelli, on va parler de vous dans quelques instants. Mais d'abord, un petit sourire. La vie est belle.
La vie est belle, mais c'est pas du gâteau. Amis, vos tours attendez donc vos tours pour manger. Se régaler, amis vautours, attendez donc vos tours. La queue le, qui sait qui n'en veut. Ce qui est tombé va certainement monter. Quand c'est cassé, il n'y a plus qu'à fixer. Si c'est fixé, qui s'y colle, c'est ok. Si t'es KO, tu sais où appuyer. même cité. Féliciter tout ce qu'on peut se souhaiter. Sagacité, nos cerveaux sont armés. Nos cerveaux. Défi simplement relevé, manche retroussée, tout pour y arriver. La vie est belle, mais c'est pas du gâteau. Et ce gâteau fait pour être partagé.
La vie est belle, Fixie, Nicolas Giraud et Jojoa, programmation de Djoubaka.
France Inter. Une semaine en France.
Toujours en compagnie de l'historien Jean-François Cirinelli qui publie Ce monde que nous avons perdu. Peut-être, Jean-François Cirinelli, qu'au-delà de la matière que vous étudiez, c'est votre histoire à vous qui est un élément de réponse. D'ailleurs, vous l'avez un petit peu dit hein, tout à l'heure. Alors, je précise que vous êtes né en 49. Vous
tout
faites donc
fait.
Partie de la génération qui avait 20 ans, 19 ans en 68. Génération bénie, vous l'avez dit, qui a connu les 30 glorieuses, qui n'a jamais connu la guerre. Alors, bien sûr, il y a eu la guerre d'Algérie, mais vous ne faites pas partie de la génération qui a été mobilisée à cette occasion. Vous êtes donc une génération qui est passée à travers les gouttes. Et si vous écrivez ce livre, c'est peut-être qu'il y a une forme de nostalgie aussi dans votre vision du pays. C'est un petit peu le syndrome de « c'était mieux quand j'avais 20 ans ». On va pas se mentir.
Oui, enfin, vous avez raison. Il y a une forme de nostalgie qui est peut-être liée aussi à l'âge qui vient. Mais il y a aussi une réalité. C'est-à-dire que ma génération a eu une chance historique extraordinaire. Vous le lisiez à l'instant. Elle s'est éveillée à la vie au moment où cette France était dans la parenthèse enchantée que j'évoquais tout à l'heure, était sous le signe de ces quatre P majuscules que j'évoquais. Mais en même temps, il ne faut pas se mentir, pour reprendre votre expression, tous les baby-boomers n'ont pas été des mutins, des révolutionnaires. En revanche, ils ont tous été des mutants, c'est-à-dire qu'ils ont accompagné toutes les métamorphoses qu'a connu la France, d'une part la métamorphose des années 60, mais aussi les métamorphoses suivantes. Et donc, dans le fond, cette génération, on fait peser sur elle actuellement un certain nombre de responsabilités, sans doute à juste titre. Par exemple, aux 4 P que j'évoquais, il faudrait peut-être ajouter le pillage de la planète, c'est-à-dire l'idée qu'on a dépensé les ressources, je veux dire, de cette planète, quelquefois sans trop y regarder. Donc il y a probablement une forme de responsabilité. Mais je constate que sur le tard, cette génération, d'abord, elle contribue à amortir la crise, car elle aide les générations suivantes. Et d'autre part, elle nourrit le phénomène associatif. Donc nostalgie peut-être, mais aussi une certaine forme de lucidité.
Alors, les 68ards n'étaient pas tous des mutins, hein, tous des mutants, je vous ai bien entendu. Pour parler un tout petit peu de vous quand même et de votre parcours, Jean-François Cirinelli, vous venez, on peut le dire, d'un milieu privilégié, un milieu intellectuel. Votre père était universitaire,
tout à fait,
spécialiste de littérature grecque.
Absolument. Vous savez,
Votre mère travaillait dans le monde de la culture aussi.
Oui, elle était conférencière des musées nationaux, donc c'est vrai.
Vous avez commencé avec un fort bagage culturel, on peut dire ça.
Absolument, absolument. C'est un privilège, incontestablement. On peut pas dire la même chose du patrimoine financier, mais à être doté par la naissance d'un environnement culturel de ce type, c'est incontestablement un privilège.
L'histoire, cette passion pour l'histoire, elle vient d'où ? Elle vient de cet environnement ?
Peut-être, c'est aussi une inclination personnelle. Il y a cette idée d'essayer de comprendre. J'ai longtemps hésité entre l'histoire ancienne, au moment de faire le choix de la carrière, en quelque sorte, et l'histoire contemporaine. Il y avait probablement avant tout l'idée d'essayer de comprendre et de contribuer à comprendre le monde qui nous entoure.
Vous avez suivi l'enseignement de René Raymond ?
Ah oui, oui, bien, incontestablement. Tout à l'heure, on parlait de l'abstention. J'ai encore en tête René Raymond commentant les soirs d'élection à la télévision ou à la radio, le résultat des élections. René Raymond a été mon maître et effectivement, il reste présent dans le cœur et l'esprit de beaucoup d'entre nous.
Alors, comme la plupart des enseignants, vous avez commencé à enseigner dans le secondaire, puis très très vite, vous êtes allé dans l'enseignement supérieur, à l'université, à Paris, à Lille, à Sciences Po, où vous avez dirigé le centre d'histoire. J'ai une question, Jean-François Cirinelli, à propos de Sciences Po, puisqu'on parle du vivre ensemble. La démocratisation, entre guillemets, initiée par Richard Descoings, bonne chose, importante?
Je dirais globalement oui, mais en même temps, je nuancerai, je m'explique. La République, c'est des règles connues de tous et appliquées à tous. Donc théoriquement, la République, c'est la méritocratie, c'est le concours. En même temps, quand une société est bloquée, il est probablement nécessaire d'introduire en quelque sorte d'autres formes de capillarité. Vous voyez l'élément de ma réponse, c'est-à-dire que beaucoup des adversaires de la réforme de Richard Descoings disaient, et à juste titre, attention, on crée donc deux formes de parcours en quelque sorte. C'est vrai. Et en même temps, probablement, c'est le signe que notre société est bloquée. C'est un des éléments pour la débloquer. Voilà ce qu'est ma réponse, en quelque sorte.
On n'enseigne pas assez l'histoire en France. Je vous demande ça parce que vous vous êtes élevé à un moment contre le recul de la place de l'histoire dans l'apprentissage.
Oui, j'avais signé en son temps, je signe rarement des pétitions, mais j'avais signé une pétition parce que je pense que c'est pas simplement qu'un groupe humain est comme un organisme, il a besoin d'une mémoire, c'est aussi que cette mémoire cimente. Et cette mémoire, c'est ça qui est passionnant, c'est ça qui, d'une certaine façon, nous donne notre mission, c'est que cette mémoire, tout le monde peut en devenir propriétaire. C'est ça qu'il faut comprendre. Cette mémoire, c'est pas un héritage donné à certains. Tout le monde peut en avoir la donation. La République, c'est quelqu'un qui fait donation à tous de la mémoire de quelques-uns. Et donc, il faut que l'histoire soit présente parce que c'est cette façon d'intégrer, de cimenter notre société au moment où elle est gagnée par des signes de fragmentation.
Vous rejoignez la théorie de l'archipel de Jérôme Fourquet?
J'ai été très impressionné par le livre de Jérôme Fourquet, l'archipel. Je pense qu'actuellement, nous sommes en face de symptômes de fragmentation. Mais bien évidemment, ce qui honore un groupe humain, ce qui honore une démocratie, c'est de se saisir d'un problème. Nous sommes actuellement, c'est pour ça qu'à certains moments, et je vous prie de m'en excuser, mon ton a été ou martial ou grave, Nous sommes à un moment qui est un moment essentiel. Et là aussi, c'est par la politique, quelles que soient les inclinations politiques, c'est aussi par le lien politique et l'arbitrage politique que se feront les choix qui engageront l'avenir.
Le lien politique, mais aussi le lien culturel et peut-être même le lien sportif. Et si j'en parle, c'est parce que on n'a pas parlé de l'euro, mais on voit bien comment les gens vibrent à l'unisson. 15 millions de téléspectateurs à chaque rencontre des Bleus, ça compte ça aussi, Jean-François Sirinelli?
Une ferveur nationale, absolument, est une ferveur non seulement respectable, mais qui est un élément de ciment. Mais simplement, ce sont des ciments plus friables qui ne cimentent pas toujours et toujours les mêmes. Donc il faut d'autres liens, et notamment, vous le disiez, le lien culturel, j'y reviens toujours. La langue, Monsieur Germain, l'instituteur de Camus, devrait être au Panthéon car il incarne en quelque sorte ce rôle des instituteurs qui, dans l'école communale d'Alger, ont donné à Camus, dont le père était mort à la guerre, dont la mère était sourde-muette, donc il faut imaginer ce qu'était le milieu culturel de Camus, qui lui ont donné ce qu'il a été. La suite.
Et ce sera le mot de la fin. Un très grand merci Jean-François Sirinelli.
Merci
ce monde que nous avons perdu, une histoire du vivre ensemble, chez Talendier. Mille fois merci d'être venu ce soir à France Inter.